Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Cela faisait bien longtemps que je rêvais d'enregistrer un épisode avec Cédric, le podcasteur et créateur de contenu de Papatriarcat. Nous avons parlé de sa vision du rôle du père et de sa propre découverte de la paternité, de son engagement pour l'éducation non violente et de son quotidien entre l'instruction en famille et ses activités d'entrepreneur dans la parentalité. Je vous dis à très bientôt.
Coucou Cédric.
Coucou Stéphanie.
Comment tu vas ?
Ça va très bien et toi ?
Bah écoute, je suis super contente qu'on se retrouve tous les deux aujourd'hui puisque on a en commun d'être tous les deux podcasteurs dans le monde de l'éducation. En plus, tu portes un podcast qu'on aime énormément avec Sylvie qui s'appelle Papatriarcat. C'est un podcast engagé pour une parentalité éclairée et affranchie du patriarcat, donc un très beau projet. Et tu partages aussi beaucoup de contenu hyper important, on en parlait beaucoup off enregistrement, mais pour les parents et surtout pour les enfants, tu es notamment l'auteur du livre « Tu vas être papa » aux éditions First, mais aussi conférencier, formateur et actif Instagrammeur. J'aimerais, pour démarrer cet échange, que tu m'expliques comment s'est déroulée pour toi la découverte de la paternité ?
Alors ça, c'est un gros sujet. En fait, moi, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une grande décision. Voilà, si je devais résumer, j'ai pris une grande décision qui a transformé, je pense, toute la paternité, le père et l'homme que je suis. C'est le fait de prendre mon congé paternité, déjà. D'avoir la chance, puisque ma fille est née en juillet, de pouvoir y accoler mes congés d'été. Et après un petit retour au travail de 2 semaines, parce que c'était les vacances d'été et que j'ai parti d'un comité de direction d'un magasin d'une grande enseigne, il fallait composer avec toute l'équipe. Et ensuite, j'ai pris un petit peu plus de deux mois de congé parental. Et ça a été, je pense, la meilleure décision de ma vie. Voilà, je pense que ça transforme, pour en avoir beaucoup parlé maintenant, même avec le podcast, tu vois, pour avoir échangé avec beaucoup de pères, que ce soit à l'époque ou maintenant, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on trouve beaucoup de choses normales. On trouve beaucoup de choses normales dans le lien avec l'enfant, dans la répartition de la charge mentale, et surtout on comprend ce que c'est, puisque j'ai aussi eu dans ce parcours la possibilité de rester seul avec ma fille pendant 2 semaines alors que ma compagne avait repris le travail. Et ça, je pense que c'est un moment déterminant pour tu vois, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vécu ça, tu peux pas dire à quelqu'un décemment ça va, moi je suis allé travailler et toi tu es resté à la maison avec l'enfant. Tu ne peux pas dire ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu as vécu ça tous les jours d'affilée, tu comprends ce que c'est. Et voilà comment s'est déroulée mon entrée dans la paternité. C'était quelque chose que je souhaitais. Il y a aussi eu beaucoup, beaucoup en amont de renseignements, de questionnements, parce que je ne voulais pas d'une éducation violente, il faut le dire, comme je l'avais pu la connaître. Et donc, du coup, ça m'a fait amener beaucoup de questionnements, beaucoup de questions. Et comme je travaillais à Poitiers et que j'habitais à Bordeaux, j'avais beaucoup de temps seul et j'ai consommé énormément de contenu. Et l'immense chance que j'ai aussi, c'est que comme je travaillais, enfin, donc à ce moment-là, j'ai un master dans le management avec une spécialisation en coaching, j'avais déjà lu beaucoup de choses. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a des sources communes entre le management dit bienveillant et l'éducation dite bienveillante.
Ouais, ça m'étonne pas.
C'est vraiment très, très intéressant. Et du coup, si tu veux, j'avais déjà, je remercie aussi ce parcours-là de vie, parce que j'avais déjà connu les écueils de prendre les choses à la lettre dans le management. Et donc, j'avais ce recul, du coup, sur la parentalité de dire « Ok, ça, c'est un livre, ça, c'est un outil. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps. Je vais tester, je vais voir, machin. Et ça ne veut pas dire que ça va marcher avec ma fille tout le temps ou avec n'importe quel enfant. » Donc, j'avais déjà ce recul-là. Et ça, vraiment, ça, du coup, je suis rentré dans la paternité avec de la peur, bien sûr, de l'inconnu, beaucoup d'amour et tout ça, mais vraiment avec cette base très solide pour découvrir ce qu'allait être ma relation avec mon enfant.
Tu as toujours voulu avoir des enfants ?
Alors ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'en fait, comme beaucoup de gens, je m'aperçois que j'y ai pas vraiment réfléchi.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que jusqu'à, pour moi, c'était une évidence, hétéronormativité, politique de natalité. Pour moi, c'était évident. Autant je suis un mec hétéro, donc je me mets en couple avec une femme. À un moment, il faudra se marier. À un moment, il faudra faire des enfants. Voilà. Bon, au final, on n'est pas mariés, mais on a fait un enfant. Et ce qui est très drôle, tu sais, c'est que je suis devenu père à 35 ans. Et que je m'étais jamais posé la question d'avoir des enfants. Pour moi, c'était juste un parcours logique, ça allait arriver à un moment ou à un autre. Mais en fait, à 28 ans, je ne saurais pas te dire d'où c'est venu, j'ai eu vraiment ce désir hyper intense d'avoir un enfant. Et ça a pris un moment. Non pas que ça ait pris un moment dans des difficultés de conception, heureusement pour nous, ça c'est quelque chose qui est assez difficile à traverser, mais ça a pris un moment parce qu'en fait ma compagne faisait ses études, elle est chirurgienne dentiste, elle n'avait pas fini ses études, elle n'était pas installée, elle voulait vraiment avoir cette base de sécurité d'activité, et du coup c'est arrivé à 35 ans, et en fait c'est arrivé à un moment qui n'était pas idéal, comme tout le monde, mais qui était bien, en fait. Et voilà, et c'était vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Mais c'est vrai que ce désir d'enfance, si tu veux, je me suis aperçu, là, mais il y a 2 ans à peine, que je ne l'avais jamais interrogé pour de vrai, tu vois.
Ouais.
Et que c'était plutôt faire comme la norme, quoi, faire comme tout le monde. Voilà.
Et alors, tu dis que tu as eu à 28 ans un peu ce déclic de « j'ai absolument envie d'avoir des enfants ». Tu as ta fille à 35 ans, comment tu as vécu son arrivée?
Ah, c'était... tu vois, en plus, du coup, ça explique aussi pourquoi est-ce que j'étais aussi enthousiaste à l'idée de son arrivée, parce que j'attendais ça depuis un moment. Et puis, alors moi, je m'en foutais, hein, fille, garçon, tu vois, je m'en foutais royalement. Même si j'avais confiance que, du coup, j'avais lu, par exemple, tu vois, le livre d'Aurélia Blanc, « Tu seras un homme féministe, mon fils », que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je me disais, il y a quand même des problématiques d'approche qui sont différentes de par la société dans laquelle on évolue. Mais globalement, je m'en foutais, si tu veux. Mais il y avait, du coup, il y avait un immense enthousiasme. Et c'est ce qui a fait que je me suis mis un point d'honneur à... Alors, j'ai pas assisté à tous les rendez-vous médicaux, tout simplement parce que ça n'avait pas d'intérêt. Par contre, j'ai assisté à toutes les échographies et à tous les rendez-vous de préparation à la naissance, sauf un, puisque c'était entre femmes. Alors, ça m'a permis de me rendre compte de 2 choses. C'est que le premier, c'est que j'avais droit à 3 absences rémunérées dans le cadre des rendez-vous médicaux, que je ne savais pas, que les RH de mon entreprise ne me l'ont absolument pas dit, et que ça, c'était bof-bof. Donc, du coup, j'en profite pour passer l'info. Les hommes, les futurs pères ou coparents ont le droit à 3 absences sur le temps de travail, hein, rémunérées. Qui sont généralement utilisés, pour ceux qui le savent, sur les 3 échographies habituelles de la grossesse, ou les 3 échographies majeures, entre guillemets. Et la deuxième info, c'est que je me suis rendu compte aussi que, bah, du coup, en fait, dans la préparation à la naissance, bah, là, par contre, il n'y avait rien de prévu, quoi. C'est-à-dire qu'on considérait, sachant que c'est préparation à la naissance et parentalité, alors l'aspect parentalité, je ne l'ai pas vu, mais bon, bref, au moins préparation à la naissance, en fait, on dit aux hommes, aux pères, que c'est pas leur place, ces sujets-là. Fatalement, parce que, tu vois, il a fallu prendre sur des jours de repos, il a fallu prendre sur des jours de congé, il a fallu poser des journées aussi, ou des demi-journées pour aller à ces rendez-vous. Voilà, ça par contre, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est pas très très logique comme idée de dire, d'un côté on dit aux darons, faites le job, d'un autre côté la société leur dit, casse-toi de là. C'est pas très logique.
C'est clair. Et c'est ce qui a fait naître en toi cette envie d'engagement, parce que moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu es très engagée sur les sujets de la parentalité. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, mais j'aimerais aussi que tu nous expliques ton cheminement vers cet engagement fort.
Ah, je crois, franchement, que c'est le cheminement d'une vie, tu vois.
Ouais.
Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je pars d'une enfance où j'ai été très marqué par des sentiments d'injustice, je trouvais ça pas normal de subir des violences juste pour être pour des fois des trucs que je maîtrisais pas, et aussi je trouvais qu'il y avait une grande dichotomie dans le fait de me demander d'avoir un esprit critique et en même temps de fermer ma gueule et d'obéir sans discuter quand on me le disait de le faire juste parce que j'étais un enfant. Ça, c'est vraiment un souvenir qui est prégnant sur toute mon enfance, tu vois, que ce soit à la maison, à l'école, vraiment qui est prégnant partout. Et du coup, j'ai toujours été très sensible à des situations d'injustice. Parfois avec la mauvaise posture, tu vois, à jouer un petit peu les sauveurs quand, on m'a rien demandé, donc ça se travaille. Mais en tout cas, j'ai toujours été très sensible à ça. Et après, en fait, j'ai aussi eu la chance dans ma vie de moi, j'ai commencé à travailler, si tu veux, chez McDo, comme équipier. Et les gens que j'avais comme supérieurs hiérarchiques, c'était des hommes, des femmes, des personnes blanches, noires, arabes, tout ce qu'on veut, et des personnes en situation de handicap aussi. Et en fait, pour moi, c'était ma normalité, tu vois, du milieu de travail. C'était la norme. Et ensuite, en changeant d'entreprise, j'ai découvert que, ouh là, dis donc, c'est pas la norme partout. Et qu'il y a des gens qui, en 15 ans de carrière, n'avaient jamais travaillé avec une personne noire, par exemple, et avaient certains a priori dessus, et n'avaient jamais travaillé avec une personne en situation de handicap. J'ai aussi découvert, parce que j'ai aussi une carrière d'arbitre de haut niveau de handball, et j'ai découvert aussi mes collègues qui disaient « Oui, mais tu comprends, le handball féminin, c'est pas pareil que le handball masculin. » Ce qui est vrai en soi, c'est pas pareil. Mais est-ce que ça veut dire que c'est moins bien? Est-ce que ça vaut de dénigrer? Et sûr, je me suis retrouvé dans ces postures de dire « Non, mais attends, tu comprends pas, tu peux pas parler comme ça, ça reste du handball, c'est le jeu est différent, mais c'est du jeu. Et nous, notre travail, c'est de valoriser le jeu, peu importe qui le pratique. » et en fait, tu vois, j'avais ces postures-là. Donc, tu vois, ça s'est travaillé sur la durée. Et puis, en me renseignant dans ce parcours de paternité, je découvre la violence dite éducative ordinaire, que l'on pourra nommer différemment peut-être dans l'avenir. Mais je découvre ça, et tout à coup, tout prend sens, quoi. Tu vois, tout à coup, tout fait sens. Et je me renseigne, et je fais le lien avec tout ce que je sais de mon master, où on parle d'autonomiser les collaborateurs, les collaboratrices. Et à un moment, si tu veux, je me retrouve à faire des liens qui sont pour moi évidents, mais vraiment qui deviennent évidents. C'est-à-dire que moi, si tu veux, je travaillais avec des collaborateurs et des collaboratrices qui ne voyaient leur valeur de travail qu'au travers de mon regard de responsable, de manager et de supérieur hiérarchique, comme on dit, même si j'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça que c'est dit, et qui ne comprenaient que deux choses. Soit ils réussissaient et ils avaient une augmentation, et soit ils avaient mal fait et il fallait les sanctionner. Sauf qu'en fait, moi, ce que je leur ai appris, c'est qu'il y avait tout un monde au milieu, et du coup, en fait, ils n'étaient jamais en autonomie. Enfin, les équipes que je récupérais n'étaient rarement autonomes, et souvent, je les rendais autonomes, justement, parce qu'on allait dans ce côté de « Mais toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu penses de ton travail, quoi ?» Et c'est vrai que ce soit dans le handball ou dans l'entreprise, j'ai eu ces approches-là, y compris dans des milieux associatifs, et c'est vrai que tout ça, en fait, ça a construit un engagement. Et quand tu découvres ça, tu te rends compte que quand tu découvres le système, donc je dis bien le mot système, d'oppression de l'adulte sur l'enfant, ben, tu comprends tous les autres, en fait, je trouve. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que je comprends ce que vit une femme quand elle est harcelée dans la rue, absolument pas. Ça ne veut pas dire que je comprends le racisme systémique que peut subir une personne noire, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je le vois. Et ça veut dire que quand quelqu'un m'en parle, j'arrive à comprendre de quoi il me parle. Parce que pour moi, c'est évident. Et ça, c'est grâce au passage par l'enfance. Et c'est vrai que tu vois ensuite plein de problématiques. Tu vois plein de problématiques. Et du coup, ça, bah, tu as deux options. Ou tu te dis, c'est comme ça. Mais comme j'ai grandi, je reviens à mon début avec cette idée de « j'aime pas l'injustice bah, », forcément, ça crée une dynamique d'engagement.
Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour toi comme combat à mener d'un point de vue éducatif et ce que tu défends avec Papatriarcat?
J'ai envie de dire que la priorité, en fait, c'est de regarder les relations qu'on a avec les enfants du point de vue de l'enfant, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile pour différentes raisons. La première étant que déjà, ça nous met dans une position très inconfortable, que ça vient chercher à des choses qu'on a vécues, ça vient rechercher la relation à nos propres figures d'attachement, ça vient chercher à des choses qui ne sont pas forcément confortables, mais je le garantis, qui, une fois qu'on a fait le point là-dessus, sont extrêmement confortables. On est à l'aise avec beaucoup de choses. Et je pense qu'on a un outil merveilleux pour ça, mais qui n'est pas du tout assez démocratisé en France, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, mais pas dans sa simple lecture des articles tels qu'on peut le faire en France, mais aussi avec la lecture des observations générales faites par le Comité des droits de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui manque, tu vois. Donc voilà. Et comprendre aussi une chose très importante, je pense, une priorité. Et je pense que ça, c'est vraiment un axe extrêmement important que j'ai compris, c'est arrêter de penser la relation enfant-parent uniquement justement dans la relation enfant-parent. Il y a des sujets qui sont politiques et sociaux. Pour que les enfants aient droit à une éducation non violente, les parents doivent avoir le droit à un accompagnement pertinent, gratuit, à une préparation à la parentalité pertinente, à des congés maternité et paternité qui correspondent à leurs souhaits, à des congés parentaux correctement rémunérés et qui correspondent à leurs souhaits, dans la lignée justement de ce que propose les 1000 premiers jours par exemple. Voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est que travailler pour les droits de l'enfant, c'est travailler pour les droits de tous et toutes, à commencer par les parents.
T'as tout à fait raison. Et en même temps, il y a aussi un point de vue sur lequel... un sujet sur lequel tu travailles beaucoup, c'est aussi le rôle du père. En quoi le rôle du père s'inscrit dans ce combat-là?
Je vais parler dans un contexte très hétéronormatif, hein, mais parce que c'est la majorité des situations rencontrées, uniquement pour ça. Si tu veux, le rôle du père, l'héritage, c'est quoi? L'héritage, il tient en trois points majeurs. C'est que le père est un tiers séparateur dont le rôle premier est d'intimider l'enfant. Voilà, ça on peut remercier Sigmund Freud pour ses belles théories, mais ça n'a pas de sens en soi. Et surtout, aujourd'hui, la science nous démontre que c'est totalement faux. Enfin, en tout cas, c'est basé sur rien. Donc on a le droit de croire ça, mais c'est une croyance, hein, ça tient de la croyance. Et comme toute croyance, ben, elle a ses défauts et ses qualités. On tient aussi une tradition, hein, qui est importante. Il faut savoir que ce qui régit le droit des parents et le droit de la paternité, notamment en France, c'est issu du droit romain, hein, de ce qu'on appelle le patria potestas, qui est l'exaltation de l'être masculin par la paternité. C'est la traduction. Donc, on voit bien qu'il y a un truc quand même qui se joue en termes de patriarcat et de position de l'homme. Ensuite, on a aussi une tradition culturelle qui est que l'homme doit aller... chasser, hein, doit ramener de la calorie et doit aller chasser l'argent avec sa lance pour la ramener dans le foyer, mais qui ne doit pas foutre grand-chose dedans le foyer, par contre. Ça va. Par contre, la femme, elle peut et aller chasser et foutre quelque chose dans le foyer. Ça va. Et on a aussi une tradition qui est issue, qui est directement liée au premier point que j'ai cité, qui est le père est le premier pourvoyeur d'autorité, du coup, mais aussi de violence. Voilà. Et aussi de violence. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, le rôle du père, c'est bien d'autres choses. C'est comprendre qu'on est figure d'attachement. Mais ça vient directement, je vais prendre un petit raccourci, mais ça vient directement chercher à quelque chose où c'est pas évident. Parce que quand on te dit, t'es une figure d'attachement, t'as été éduqué comme un homme. Hein, un vrai bonhomme, tu vois. Un garçon, un vrai bonhomme, tu vois. Faut pas pleurer. On va glorifier tes colères. On va glorifier tes joies. Mais on va te dire de cacher ta tristesse, de cacher tes failles, de cacher tes frustrations, sauf si tu les exprimes avec de la colère. En fait, tout ne devient que colère ou joie dans la construction classique d'un petit garçon. C'est quelque chose que j'ai bien connu et qui se vérifie à bien d'autres endroits. Et si tu veux, et là, on vient te dire, mais il faut que tu accompagnes ton enfant dans ses émotions. Mais des émotions de quoi? Tu vois, je vais te citer Armel Lalung dans un de mes épisodes. Les émotions de quoi? Si ton enfant est en train de se noyer demain, c'est comme si on te disait, tiens, ton enfant est en train de se noyer dans une piscine, saute et va l'aider alors que tu ne sais pas nager. Ça n'a pas de sens. Par contre, tu vas chercher une bouée, tu vas chercher un bâton, tu vas chercher une corde, tu vas chercher des outils pour t'aider. Et c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on fasse. Parce que c'est vraiment important de se le rappeler, puisque comme le dit aussi André Stern, nos enfants deviennent tels que nous les voyons, aussi tels qu'ils nous voient. En fait, faire ce travail sur nous, en tant qu'homme, et qu'on ait des garçons, des filles, hein, la question n'est pas là, qu'on ait faire ce travail sur nous, sur la gestion des émotions, sur l'accompagnement de nos émotions, sur la découverte parfois de nos émotions, c'est transmettre ça à nos enfants. Donc on a ce côté-là. On a ce côté-là qui est important et central pour l'enfant et pour l'enfance. Et pourquoi est-ce que je te dis que c'est important? Parce que ça nous permet de rentrer en empathie dans le lien avec l'enfant. Et généralement, je ne dis pas que c'est impossible, mais quand on est en empathie avec quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué d'être violent avec quelqu'un. Et l'autre point forcément qu'il faut travailler aussi, c'est ce que j'expliquais, c'est l'image, certes un peu cliché, je l'entends, de l'homme qui va faire beaucoup de choses en dehors du foyer et qui ne fout pas grand-chose dedans, si ce n'est bien sûr bricoler. Alors ça, par contre, on peut bricoler, pas de problème. Mais voilà, il faut comprendre ça, et donc il faut comprendre ce que le concept de la charge mentale domestique et familiale, et il faut comprendre comment est-ce qu'elle est répartie dans le foyer. Et là-dessus, je n'ai pas de leçon à donner, parce que Je connais plein de gens qui sont dans un schéma très traditionnel, entre guillemets, ouais. mais qui l'ont fait après réflexion, après discussion, et ça convient à tout le monde. Voilà. Mm-hmm. Par contre, quand on se rend compte que, et tu vois bien qu'il y a beaucoup de mères qui l'expriment, tout à coup, quand elles deviennent maman, elles se rendent compte de l'inégalité des charges dans leur foyer. Parce qu'elles ont une charge immense qui arrive. Donc voilà. Donc, et pour faire ça, en fait, il faut prendre son congé paternité.
Ouais.
Si on peut, et j'encourage les gens à faire un petit congé parental, et il faut aussi oser dire à la sage-femme, par exemple, dans la maternité, « Excusez-moi, mais là, vous êtes en train de parler de mon enfant, de comment s'en occuper, et vous ne vous adressez pas à moi.
Ouais.
Vous ne vous adressez qu'à ma compagne, par exemple. » Ça peut être de dire à son patron, « Non, mais là, moi, les réunions après 17h, en tout cas, tel jour, c'est terminé. Il faut que j'aille chercher mon enfant. » Ça peut être, bien entendu aussi, de s'intéresser au carnet de santé, de c'est quoi tous les rendez-vous qu'il y a à prendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous les faire. Juste s'intéresser au mode de garde, s'intéresser à, tiens, c'est quoi le cododo ? Tiens, c'est quoi l'allaitement ? Est-ce que ma femme veut allaiter ? Quel est son choix, elle, et comment est-ce que je peux l'accompagner ? Quelle couche on va mettre ou pas de couche ? Enfin, voilà. Il y a tout un tas de sujets comme ça sur lesquels on peut s'investir et qui vont permettre d'avoir, mais de manière assez évidente, un lien très différent, une posture très différente dans sa paternité.
Bien sûr. Et toi qui travailles beaucoup sur le sujet des pères, est-ce que tu n'as pas l'impression déjà que ce changement est déjà bien en marche du côté des pères ?
Alors, j'aurais envie de te dire oui. J'aurais envie de te dire oui, parce que je vois les pères, je vois des pères qui font différemment, je vois des pères qui jouent plus avec les enfants, je vois tout ça, et je trouve ça génial. Mais il y a deux problèmes. Le problème, c'est que je regarde ces pères-là. Je les vois parce que je les regarde. Est-ce qu'à l'échelle de la société, il y a des changements significatifs ? La sociologie nous dit que non. Myriam Château a fait une thèse hyper intéressante, elle est passée d'ailleurs dans les couilles sur la table pour parler des nouveaux pères. Elle a fait une thèse hyper intéressante sur le sujet. C'est très intéressant de constater qu'en effet, les pères passent plus de temps avec leurs enfants. Mais globalement, les parents passent plus de temps avec leurs enfants. Globalement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va décortiquer. C'est-à-dire quel temps les pères passent avec les enfants. Aujourd'hui, les pères font des activités avec les enfants. Ils font des jeux, ils font la sortie au parc. Tu vois mais qui prévoit la sortie au parc ? Qui prépare le sac pour aller au parc ? Quand ils font une activité, qui va nettoyer la peinture ? Qui prépare l'activité ? Qui a pensé à préparer l'activité sur la journée ? Et malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même immensément les mères qui font tout ça. Et je crois, moi, j'écoute les mères, moi je ne suis pas mère, donc j'essaye d'écouter. Et j'ai entendu les mères dire, on veut que les darons s'impliquent plus dans la parentalité, dans l'accompagnement de l'enfant. Mais je n'ai pas entendu les daronnes dire, on veut que les pères s'impliquent uniquement sur les temps qui nous aussi nous font plaisir. Tu vois, quand tu vois des papas sur Instagram qui postent des photos, ils sont en train de changer des couches, mon Dieu, ils sont merveilleux, ce sont des mecs incroyables, il faut les applaudir, leur mettre des médailles, et on le fait à moi aussi, malheureusement. Moi, une des questions que j'ai envie de poser, c'est, ok, mais qui a acheté les couches ? Qui a choisi les couches ? Qui a passé du temps à regarder la composition des couches ? Tu vois, c'est tout bête, mais moi, ce sont des questions que je me pose. Qui s'assure qu'il y ait toujours du liniment, du machin, du truc pour changer la couche ? Qui fait ça ? Et la réponse, c'est très très peu souvent les pères. Donc oui, il y a un mouvement, il faut l'encourager. Moi, je ne suis pas pour taper sur les pères, c'est pas du tout mon sujet. Mais il faut comprendre que les standards d'engagement des pères dans la paternité, dans la parentalité, sont tellement bas au départ qu'on ne peut pas se contenter de ça.
Il y a un autre sujet que j'aimerais bien qu'on aborde parce qu'il nous touche aussi particulièrement avec Sylvie. C'est celui de l'instruction en famille. On en a beaucoup parlé récemment parce qu'il y a des choix qui nous ont beaucoup attristés d'un point de vue gouvernemental en lien avec l'instruction en famille. Toi, c'est le choix que tu as fait pour ta fille Sarah. J'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu as fait ce choix-là et comment est-ce qu'aujourd'hui tu t'organises pour porter à la fois tes engagements professionnels et personnel avec ce beau choix éducatif pour ta fille.
En fait, il y a quelque chose d'assez, d'assez flagrant qui nous a sauté aux yeux avec ma compagne. On avait tous les deux un rapport à l'école qui était pas très positif. Pourtant, on était tous les deux d'excellents élèves. Mais en tout cas, en termes de relations, d'estime de soi, on a vite compris que c'était pas ouf ce que l'école publique, en tout cas, pouvait proposer, même si ma compagne a connu un peu d'établissement privé. Dans tous les cas, c'était pas génial. Et puis, il y a quelque chose qui... En fait, je pense qu'il faut être clair, à partir du moment où tu réfléchis en comportements proximaux, à partir du moment où tu réfléchis en rythme de l'enfant, en respect du rythme de l'enfant, à partir du moment où tu réfléchis en respect des explorations de l'enfant, c'est compliqué de se dire qu'à 3 ans, un enfant va devoir aller dans un environnement où il va être rangé qu'avec des gens de son âge, hein, de sa caste d'âge. Déjà, c'est particulier, qu'il va devoir forcément se lever à telle heure tous les matins. Et aussi ce respect de l'exploration. Ma fille, elle peut passer des heures à faire la même activité si elle veut et à aller à fond dans une activité. Et on a tous ce souvenir, je pense, à l'école de... t'adores les maths, par exemple, tu t'enthousiasmes dessus, t'es en train de t'éclater dessus, et en fait, on te dit stop, l'heure est finie, maintenant tu vas faire du français.
Ouais.
Ça n'a aucun sens en termes d'apprentissage. Et puis, donc, du coup, tout ça, ça nous semblait aussi assez logique, si tu veux, dans une certaine continuité des comportements proximaux depuis l'arrivée de notre fille, et donc depuis l'accompagnement du nourrisson. Et puis, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te renseignes. Donc, comme on n'y va pas avec le dos de la cuillère, alors on a commencé par regarder un documentaire qui s'appelle « Être et devenir » de Clara Bella, qui est super intéressant. Et puis après, tu te dis « Tiens, je vais lire ». Donc, tu lis John Holt, tu lis Peter Gray, tu lis Sir Ken Robinson, tu lis André Stern, tu lis Arnaud Stern. Et là, tu commences à te dire « Mais il y a quand même des choses qui sont incroyables ». Et tu te dis « Mais est-ce que tout ça, c'est prouvé par la science ?» Tu regardes le documentaire Alphabet, tu te renseignes et tout à coup, en fait, ça te semble évident. Tu vois, ça semble évident. Alors tu te dis, bon, bah, très bien, on va tenter le truc. Et du coup, tu te demandes comment on fait. Dans le projet, puisque c'est un projet qu'on a décidé quand Sarah avait un an, l'idée, c'est comment il fallait que je change de métier. Puisque j'étais cadre, je peux le dire, j'étais cadre à la FNAC, hein, j'ai pas de problème à le dire. Et c'était pas très compatible, tu vois. Ça marchait pas très bien. Donc, j'avais décidé à ce moment-là de me mettre à mon compte dans un projet qui était pas du tout le podcast, hein, mais bon, bref, de mettre à mon compte pour pouvoir avoir justement une flexibilité d'horaire. Ma compagne étant, elle, dans le libéral, a aussi une certaine flexibilité d'horaire. Et surtout, on a une énorme chance, et ça, c'est un cas très personnel, hein. On a l'énorme chance d'avoir des grands-parents qui sont là, en l'occurrence des grands-mères. Et c'était chouette parce que d'un côté, ça nous permet de travailler, et d'un autre côté, on trouve ça intéressant aussi, tu vois, d'avoir un espèce d'échange intergénérationnel comme ça, qui se fait. Et surtout des figures d'attachement qui diffèrent, enfin voilà, une certaine multiplicité des figures d'attachement, ce qui d'ailleurs a été relevé lors de notre dernier contrôle pédagogique avec l'éducation nationale, qui nous ont dit ça c'est vraiment très bien, donc on est très content de ce choix-là. Et donc on jongle un peu avec ça, donc ça va être moi qui m'occupe de Sarah, bon en majorité du temps il faut bien le dire, une grand-mère, une autre grand-mère, ma compagne, et puis des temps tous ensemble. Et puis, tu sais comment c'est quand on est à son compte. Des fois, il y a des coups de bourre, des fois, il y a des projets qui vont prendre un peu plus de temps et donc on va réadapter. On va peut-être demander aux grand-mères si elles peuvent être un petit peu plus là ou à ma compagne de prendre quelques jours en moins. Et là, tu vois, il n'y a pas longtemps, ma compagne, elle avait un très gros projet. Donc, du coup, c'est moi qui ai pris quelques jours en plus. Voilà, on va s'adapter en fait. C'est mouvant, quoi. Alors, c'est incroyable parce que il y a ce côté qui est très. On aimerait bien avoir la sécurité, si tu veux, que peut apporter le salariat, des horaires, tout le temps. Enfin, voilà, on aime bien tout ce qui ne bouge pas. Moi, je trouve aussi un certain plaisir, un certain enthousiasme dans ce côté très émouvant. C'est pas toujours facile, mais c'est hyper intéressant. Et surtout, ce qui est dingue, c'est d'observer l'enfant. Observer l'enfant qui explore, qui peut explorer librement, qui va sur des chemins totalement inattendu. Et tout ça, c'est encouragé et c'est super chouette, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, en instruction en famille, si tu as fait des choix particuliers d'un point de vue pédagogique, comment tu t'y prends pour l'apprentissage de ta fille?
Je m'y prends pas. Voilà. Non, mais globalement, ce qu'il faut bien comprendre. Alors, je vais peut-être donner une petite définition qui sera un peu grossière, mais qui reste vraie. En instruction en famille, on peut déterminer deux grands courants, qui sont le homeschooling, c'est-à-dire avoir des temps dédiés à l'instruction, qui peuvent même être scolaires ou même être carrément avec le CNED, des choses très, très cadrées. Et on va voir le unschooling, qui est plutôt laisser l'enfant apprendre par lui-même. Alors, Donc nous, on est clairement dans du unschooling. Bien entendu, attention, ne soyons pas binaires, il y a toute une multitude de possibilités dans ces deux. Là, c'est juste deux courants majeurs, mais qui offrent des multitudes de possibilités et de mélanges, mais que ça peut perturber. Tu vois, nous par exemple, l'éducation nationale, enfin, à chaque inspection, on me dit, mais quels sont ses horaires d'instruction ? Ben, elle n'en a pas, en fait. Elle n'en a pas, et en fait, elle apprend un peu tout le temps. Ça va être... l'idée, si tu veux, ça va être de que tout soit situation de jeu, dans la majorité des cas, et du coup, si qui dit situation de jeu, dit situation d'apprentissage. On n'a pas... Il faut, et ça demande quoi ? Ça demande une confiance qui n'est pas facile. Alors attention, clairement, ce n'est pas facile au début, mais ça demande une confiance inconditionnelle envers l'enfant. Ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va quand même, moi et ma compagne, on s'est quand même renseigné sur la pédagogie Montessori, sur Freinet, sur des choses comme ça qui nous parlent. J'aime beaucoup aussi les travaux de Céline Alvarez sur le sujet de la lecture, par exemple. Et puis, on va, tu vois, Sarah, par exemple, quand elle a eu un intérêt pour les lettres, en effet, on a pris un petit peu de matériel pour l'accompagner, qui en l'occurrence les sujets de Céline Alvarez. Et voilà, on s'est beaucoup intéressé à ce que pouvait proposer Montessori sur certains sujets, cette approche que j'aime beaucoup du choix d'activité, de l'exploration libre aussi, qui est quand même très très prégnante hein, à la base de cette approche. Et du coup, ça fait sens. Et donc tout ça, ça inspire, mais ça inspire plus. Je trouve que ça inspire. Alors, c'est ce que nous on en fait. Hein. Mais ça inspire ouais. plus l'adulte pour savoir dans quelle posture se mettre.
Bien sûr.
Tu vois, c'est plutôt ça, nous, que ça nous a transmis. En fait, on n'a pas cherché absolument à refaire une activité Montessori ou quoi, mais c'est plutôt ça que ça nous a transmis. Et après, c'est la vie, en fait. Comment ça se passe ? En fait, on va aller... je vais te dire comment est-ce qu'elle a découvert les chiffres. On allait tous les dimanches matin acheter le pain à la boulangerie qui est à 10 minutes à pied si c'est moi qui vais tout seul. Sauf qu'en fait, Sarah, elle a vu des chiffres devant les maisons. Elle a vu des chiffres sur les poteaux électriques et elle voulait que je lui dise chaque chiffre et que je lui décompose chaque nombre. Donc forcément, ça prenait 2 heures d'aller chercher du pain, mais c'était OK, tu vois.
J'aimerais qu'on vienne à ton activité de podcasteur et que tu nous dises quels sont tes épisodes favoris, ceux que tu recommandes pour nos auditeurs des adultes de demain qui ne te connaissent pas encore, s'il y a un, deux épisodes qui t'ont particulièrement marqué.
Il y a bien sûr l'épisode avec André Stern qui est à part, ça on peut le dire. Et après, je voudrais pas vexer les invités, donc je vais faire attention. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque épisode amène quelque chose d'important, que ce soit celui avec Isabelle Filioza sur l'éducation positive et la non-perfection parentale, qui est important, celui avec Héloïse Junier sur fixer un cadre non violent. Mais je pense aussi je sais pas, celui avec France sur France Tronel, justement sur essayer de voir sa vie autrement avec une certaine envie de liberté. Et puis je pense aussi au moment où on enregistre à des épisodes qui sont pas sortis. Il y a un épisode avec Catherine Guéguin qui sera le 100e épisode. Il y a le premier épisode en anglais et en français avec Alan Kazin, professeur de l'université de Yale, directeur du Yale Parenting Center, qui va être passionnant. Et il y a aussi, enfin, ça va dépendre des sujets. Il y a des épisodes aussi qui sont surprenants sur la découverte aussi de comment parler de sexualité à nos enfants, tu vois, comment aborder le sujet ou ne pas en parler justement et peut-être les laisser faire aussi. Il y a plein de sujets comme ça. Il y a aussi des sujets de couple, quelles difficultés on peut rencontrer dans le couple quand on devient parent. Il y a un format que j'aime beaucoup qui s'appelle mon format Histoire de parents où je fais parler deux parents sur une même chronologie mais séparément et sans qu'ils se concertent. Ça, c'est hyper intéressant. Donc c'est très très difficile de parler tout ça. Je pense aussi à Catherine Dumontet-Écrivain. Enfin voilà, il y a plein d'épisodes qui sont bien. En revanche, ce que je peux dire, c'est que il y a quelque chose que j'ai noté, c'est que c'est pas forcément facile de se retrouver au milieu de tout ça et que il y a mon site internet qui est en cours de reconstruction. Ou de construction tout court parce qu'il était vraiment pas top, où on va proposer justement une catégorisation des épisodes. Parce que tu vois, je pense aussi à l'épisode avec Audrey Njavé, que j'aime beaucoup, sur le sommeil de l'enfant. Enfin voilà, tu vois, il y a plein d'épisodes. Et donc l'idée, ça va être en effet de peut-être de proposer des catégorisations des épisodes pour que les parents puissent se dire « Ok, là, je vais chercher ça, là, je vais chercher ça. »
J'invite vraiment nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore à venir découvrir ce magnifique travail que tu fais et qu'on soutient énormément. Merci beaucoup pour ton temps et merci pour les beaux combats que tu mènes.
Merci, merci pour l'invitation et pour tout le travail que tu mènes et que vous menez.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite. À très bientôt sur les adultes de demain.